I was looking for God. I was searching. Hello famille! Alors bienvenue dans la deuxième partie, de notre épisode sur l'amitié, sur les relations humaines que j'ai décidé d'appeler Humanship parce que, comme vous avez pu le constater, j'aime beaucoup le délire de mettre les titres en anglais. C'est un concept qui me plaît. Du coup, je vais vraiment continuer dans cette logique et tout. Bref, je suis trop contente d'enregistrer encore un nouvel épisode. Et je tiens du coup à dire bienvenue à toutes les personnes qui écoutent le podcast pour la première fois. Ici, on est sur Soul for Soul, votre podcast chrétien. On parle de religion, de spiritualité, mais aussi de la vie de façon plus générale. Et j'espère que vous écoutez, que vous soyez dans le cas où vous écoutez le podcast pour la première fois ou si vous êtes déjà abonné, bah, j'espère que cet épisode il va vraiment vous faire du bien, que vous allez aimer et que vous n'allez vraiment pas regretter d'avoir commencé à écouter cet épisode en fait. Du coup, pour débuter, je vais essayer de ne pas trop durer sur l'introduction. On va vraiment essayer de rentrer vite dans le vif du sujet. Donc pour débuter, on peut tout simplement se demander où en est-on dans notre réflexion. À ceux qui n'auraient pas écouté la première partie, je vais vous inviter vivement à le faire pour mieux comprendre celle-ci. Je m'appelle AMC et on est en pleine analyse de Siracide 5, les versets 5 à 17, afin de mieux comprendre et mieux vivre nos amitiés, nos relations humaines. On a entre autres, dans la première partie, abordé l'amitié, l'opportunisme, la trahison qui accompagnent parfois nos amitiés. Et là, nous avons analysé les versets 5 à 10 qui nous ont poussé à nous poser en guise de conclusion partielle 5 questions. Donc les 5 questions sont les suivantes. Suis-je une personne agréable dans mes paroles? Est-ce que j'ai un conseiller ou plusieurs conseillers? Et si j'en ai plusieurs, est-ce que je les ai éprouvés? Si jamais j'ai connu des moments de détresse, quels sont les amis qui étaient auprès de moi? Et est-ce que j'ai pardonné la trahison d'un ami? Et si oui, comment et dans quelles circonstances? Du coup, ce sont 5 questions. Et les 5 questions sont pour chacun des versets qu'on a analysés. Donc la question « Suis-je une personne agréable dans mes paroles ?» elle correspond en fait à la question qu'on doit se poser lorsqu'on finit d'analyser et de méditer le verset 5. Du coup, voilà, j'espère que vous avez pu répondre à ces différentes questions et qu'elles vous ont aidé, qu'elles ont pu orienter vos réflexions et que ça vous a fait du bien. Parce que c'est lorsqu'on se pose les bonnes questions et qu'on a les bonnes réponses qu'on peut bien agir en conséquence. On peut bien agir en conséquence, bien s'améliorer et voir clair dans certaines choses qui étaient peut-être floues pour nous ou auxquelles on n'aurait même pas pensé si on ne s'était pas interrogé. Donc là, on va aborder les 6 ou 7 derniers versets en commençant par le verset 11. Du coup, je pense quand même que je vais relire le texte que j'ai choisi pour les personnes qui viennent juste d'arriver ou qui n'auraient pas écouté la première partie avant de commencer à analyser le verset 11. Dans le doute, je vais redire les références du texte parce que j'ai l'impression d'avoir dit que c'était Siracide 5, mais c'est pas Siracide 5, c'est Siracide 6. Du coup, les références du texte que j'ai choisi, c'est Siracide 6, donc Siracide ou Ecclésiastique ou livre de Ben Sirac le sage, chapitre 6, les versets 5 à 17. Donc je vais vous les lire tout de suite. Une parole douce fait beaucoup d'amis, et la langue aimable est riche d'amabilité. Qu'ils soient nombreux, ceux qui vivent en bon rapport avec toi, mais prends conseil d'un seul entre mille. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en l'éprouvant, et ne te confie pas à lui à la légère. Car tel est ami à ses heures, qui ne le restera pas au jour de ton affliction. Tel est ami qui deviendra un ennemi et qui révélera votre différend à ta confusion. Tel est ami, quand il est assis à ta table, qui ne le restera pas au jour de ton malheur. Durant ta prospérité, il sera comme un autre toi-même et il parlera librement avec les gens de ta maison. Si tu tombes dans l'humiliation, il sera contre toi et il se cachera de toi. Il se cachera devant toi. Éloigne-toi de tes ennemis et sois sur tes gardes avec tes amis. Un ami fidèle est une protection puissante. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Rien ne vaut un ami fidèle. Aucun poids ne saurait en marquer le prix. Un ami fidèle est un remède de vie. Ceux qui craignent le Seigneur le trouvent. Celui qui craint le Seigneur a une véritable amitié, car son ami lui est semblable. Du coup, c'est le texte que j'ai choisi d'utiliser pour mes deux derniers épisodes. Donc, l'épisode 2, la partie 1 et là maintenant la partie 2. Et je le considère vraiment, ce texte, comme mon traité sur l'amitié. Et du coup, là, ce que j'essaye de faire, c'est de le prendre vraiment comme un texte et analyser chacune des paroles, chacun des versets qui composent en fait ce texte. C'est-à-dire les analyser et voir comment est-ce que ils me permettent de faire, on va dire, de me poser les bonnes questions par rapport à mes amitiés, par rapport aux relations que j'entretiens avec les autres. Donc j'essaye vraiment de faire une analyse plus ou moins fine, verset par verset. Donc on commence avec le verset 11 qui dit « Durant ta prospérité, il sera comme un autre toi-même et il parlera librement avec les gens de ta maison. » Donc là, c'est vraiment l'idée de la personne, de l'ami, qui profite en fait de tes avantages quand tout va bien et se permet au nom d'une proximité déguisée de se faire passer pour toi, de prendre ta place, de donner des ordres aux gens de ta maison comme s'il en avait le droit ou le pouvoir au nom de votre amitié. Donc là, je pense que ça rejoint vraiment l'idée d'opportunisme, l'idée des personnes, les personnes qui profitent en fait de ce que vous avez et qui sont là pour ce que vous avez et pas pour ce que vous êtes. Donc c'est la description d'un ami qui, en période de prospérité, se montre finalement si proche qu'il semble être comme un autre toi-même, comme un alter ego. Et ça évoque une amitié qui, en fait, en surface, lorsqu'on la regarde, paraît idéale et profondément sincère, profondément connectée, si je peux dire ça comme ça. Cet ami va donc sembler partager tes joies, ton succès, il va s'intégrer parfaitement dans ta vie, au point d'être à l'aise, en fait, avec les membres de ta famille ou de ton entourage. C'est vraiment, là, je pense, on est vraiment sur la dualité entre le paraître et l'être. Et littérairement, cette proximité peut être vue en fait comme un masque. Donc l'ami va sembler fusionner avec toi dans la prospérité, mais cette fusion est finalement... Enfin, ce n'est pas toujours le cas, donc cette fusion peut être finalement superficielle. Parce qu'il y a des amis avec qui, effectivement, la ressemblance et la proximité ont l'air tellement inédites qu'on s'y accroche naturellement très vite. C'est vraiment le type de personne avec qui vous entretenez finalement des amitiés totalement inédite, comme j'ai dit, c'est-à-dire vous commencez à avoir un lien avec une personne, c'est-à-dire c'est un ami, mais vous n'avez jamais vécu d'amitié comme ça. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Et la phrase va donc suggérer, le verset va donc ici suggérer que cette apparence d'intimité, en fait, elle pourrait être trompeuse. Et que ce type d'amitié, aussi parfait qu'il paraisse, n'est peut-être pas fondé sur une véritable solidarité, mais plutôt sur des circonstances favorables ou un environnement particulier. Ensuite, l'idée de parler librement avec les gens de ta maison, ça évoque, comme je l'ai dit, la confiance et la familiarité. Ça veut dire que cet ami, en fait, il se sent tellement à l'aise dans ton univers qu'il va agir comme s'il en faisait partie intégrante. Parce que finalement, c'est le cas. Et cette familiarité peut renforcer en fait l'idée que cet ami se présente comme un compagnon inséparable. Comme un compagnon inséparable. Là, j'ai l'impression que je parle vite, du coup, j'ai essayé de ralentir un peu. Donc, comme un compagnon inséparable, comme un alter ego. Et cependant, cette proximité peut être aussi perçu comme, du coup, une intrusion subtile. Donc, littérairement, parce que je vais essayer de quand même mettre quelques refs littéraires, je pense, je vais essayer. Donc, littérairement, cela rappelle des récits où, en fait, des personnages secondaires vont s'infiltrer dans la vie du protagoniste sous couvert d'amitié. Mais, finalement, cette intrusion va devenir problématique lorsque une crise ou un temps de crise va survenir. Donc, la familiarité excessive peut devenir une arme à double tranchant, surtout si la relation si ça se détériore. Donc, en gros, si on doit chercher à faire une sorte de synthétisation de toutes ces idées-là, c'est Une sorte de critique de l'opportunisme qui est finalement déguisée en amitié sincère. C'est pour ça que dans la partie 1, par rapport à un des versets, je ne sais plus c'est lequel, donc je ne vais pas dire n'importe quoi, mais par rapport à un des versets, on a insisté quand même sur le fait que finalement, il faut éprouver ses amis. C'est-à-dire le titre d'ami n'est pas un titre qui se donne facilement ou qui est à prendre à la légère. Il faut que, plus ou moins malheureusement, il faut que des temps de crise arrive pour que vous puissiez voir en fait qui est vraiment là pour vous et qui mérite, en guillemets, d'avoir le titre d'ami. Et c'est comme ça que des amis que vous n'avez pas éprouvés en fait, avec qui il n'y a jamais eu de soucis parce que les circonstances ont toujours été tranquilles, vous allez vous retrouver face à une personne qui va en fait sembler partager tous les aspects de votre vie et qui va finalement en tirer un grand bénéfice en termes parfois d'intégration sociale ou de confort. Mais ce comportement, encore une fois, pourrait masquer une amitié intéressée qui va s'évaporer dès que la prospérité va disparaître. Et du coup, c'est vraiment une mise en garde contre, on va dire, la dépendance émotionnelle à une telle relation. J'ai envie de vous dire aux relations en général, mais on va vraiment se focus, on va se concentrer sur ce type de relation-là. Donc, en période de prospérité, il peut être facile, en fait, de se laisser convaincre que une personne avec qui vous parlez est une sorte de miroir de vous-même, un partenaire inséparable, un véritable ami. Mais cette dépendance à l'illusion d'une amitié parfaite peut rendre la trahison ou la déception encore plus douloureuse lorsque cet ami s'éloigne dans les moments difficiles. Et après, il faut dire aussi que la façon dont cet ami va s'éloigner peut vous faire savoir si c'était une personne qui était intéressée et avec vous, et avec qui plutôt vous devez couper les ponts, ou si c'était juste une personne qui ne sait pas, malgré tout l'amour qu'il ou elle vous porte, gérer les situations compliquées. Et dans ce cas, vous allez juste réaliser que c'est un ou une amie avec qui vous ne pouvez pas parler de tout. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas un ami du tout. Du coup, ça c'était ce que j'avais à dire concernant le verset 11. Donc on va passer au verset 12 qui dit « Si tu tombes dans l'humiliation, il sera contre toi et il se cachera devant toi. » Donc là, en gros, c'est l'ami qui abandonne, c'est l'ami qui se range avec la majorité, c'est l'ami qui te laisse rapidement. C'est l'ami qui te laisse rapidement, c'est l'ami qui n'est pas un soutien. Et le terme « humiliation » ici, je pense que ça... En fait, ça dépend de comment est-ce que vous le comprenez, mais ça fait référence à une situation où une personne est rabaissée, déshonorée et donc exposée à la honte. Ça peut être le résultat, par exemple, d'un échec personnel, parce que des fois, il y a des personnes qui se sentent humiliées, mais c'est même pas que... C'est-à-dire, elles se sentent humiliées par rapport à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Voilà, c'est un peu comme si leur ego finalement prend un coup. Du coup, elles se sentent humiliées par rapport à elles-mêmes. Et ça peut être aussi le résultat d'un échec du coup social ou un échec moral. Et cette situation va finalement placer l'individu dans une position vulnérable. Parce que quand une personne est humiliée, quand elle se sent humiliée, elle va être dans une personne vulnérable du fait qu'en général, c'est une période où elle va tout remettre en question. C'est une période où elle va être faible. C'est une période où, ça va pas être facile du tout. Et du coup, ça va pas forcément être, les meilleures pensées qui vont venir à l'esprit. Et l'idée que cet ami-là, il sera contre toi, il se cachera de toi, ce sont des idées qui vont renforcer l'idée d'abandon et de rejet que tu peux déjà ressentir par rapport à une humiliation. Donc, le terme « se cacher devant toi » pourrait signifier que la personne ou la personne en face évite même d'être vue avec celui qui est humilié, comme si elle voulait marquer une distance ou une rupture. Et cela peut symboliser finalement l'indifférence ou la fuite face à la souffrance ou à la déchéance d'autrui. L'indifférence dans le cas où finalement c'est une personne qui s'en fout de vous, si je peux dire ça comme ça, même si c'est un peu radical, mais aussi la fuite, parce que parfois il y a des personnes qui voient que vous n'êtes pas bien, mais elles ne savent tellement pas quoi vous dire, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'elles vont faire finalement le choix de ne pas faire de choix. Elles vont faire le choix de ne rien faire. Le choix de ne pas vous épauler, de vous laisser, parce que malgré tout l'amour qu'elles vous portent, elles ne peuvent... et ne peuvent rien faire pour vous. Mais je pense qu'une personne, un ami fidèle et authentique, aura toujours les mots qu'il faut pour vous faire du bien. Et même s'il n'a pas les mots qu'il faut, il va savoir par sa présence vous aider, en fait. Il va savoir par sa présence vous aider à surmonter tout ça. Donc, bref, c'est aussi l'idée du retournement de veste, de l'ami qui n'a finalement jamais été ton ami. Et encore une fois, c'est l'idée qu'on a développée dans la partie 1, selon laquelle tu reconnais en fait ton ami dans l'épreuve. Parce que comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai dit dans le petit teaser que j'ai fait sur Instagram, et que je vous invite du coup à regarder, un véritable ami est quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Donc, c'est quelqu'un qui vous soutiendra inconditionnellement. C'est-à-dire que s'il vous aime, il vous aidera à sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous ou qui pourrait vous conduire à l'humiliation justement. Et il ne se cachera pas devant vous ou de vous parce que, par exemple, il vous a donné un conseil et que vous ne l'avez pas écouté. Donc, s'il se cache, s'il fuit cette situation pour sauver sa propre peau, c'est peut-être que c'est le type d'ami avec qui reste avec vous lorsque c'est facile en fait d'être avec vous. Et du coup, c'est en gros le truc de si tu es dans la prospérité, il sera avec toi, il s'affichera avec toi. Et dans le cas contraire, voilà, dans le cas contraire, on a le verset. Donc, on passe au verset suivant, verset 13. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on commence la conclusion du texte. On commence la conclusion du texte. Du coup, le verset 13 dit... Enfin, c'est pas le verset 13 qui dit. Faut que j'arrête avec cette formulation. Dans le verset 13, il est écrit que « Éloigne-toi de tes ennemis et sois sur tes gardes avec tes amis. » Donc, la confiance aveugle est dangereuse. La confiance aveugle ou l'attachement émotionnel trop rapide, ce sont des choses qui sont dangereuses. Il faut savoir que la nature humaine est volatile. Genre, vraiment, la nature humaine est volatile et les relations peuvent être fragiles, surtout si elles sont basées uniquement sur des sentiments. Et les sentiments, je pense qu'on le sait tous ici, par nature, c'est quelque chose d'instable. Donc, éloignez-vous de ceux qui sont contre vous. Restez loin d'eux. Débrouillez-vous pour ne pas avoir de rapport de près ou de loin, en fait, avec ceux qui sont contre vous. Mais après, ça, c'est la partie évidente de la phrase, parce que tu ne vas quand même pas te jeter dans la gueule du loup. C'est nécessaire de te protéger de ceux dont l'hostilité envers toi est évidente. Ça, je pense, c'est un comportement humain naturel. À partir du moment où tu vois qu'une personne veut te faire du mal... À partir du moment où tu vois que la personne en face de toi, c'est ton opposant, c'est ton ennemi, tu ne vas pas rester avec lui. Enfin, je veux dire, ça, c'est... On va dans la partie évidente de la phrase. Tu vas forcément t'éloigner des personnes dont l'hostilité envers toi est évidente. Tu n'as pas besoin de lire Siracide pour comprendre ça. Mais la subtilité de la phrase, qui est une vérité, est dans le fait que même les amis, qui sont censés du coup être des alliés, peuvent poser des risques. C'est pas... Ce sont pas des relations acquises. Donc, restez alerte sur vos amis. Restez prudent. Parce que finalement, on ne sait jamais. Là, je vous demande pas de devenir parano et d'analyser toutes vos amitiés en vous disant que non, finalement, vous êtes seul et des gens autour de vous, peut-être qu'à tout moment, ils vont retourner leur veste, etc., etc. C'est pas que je vous invite à rentrer dans la... On va dire dans la paranoïa, mais c'est juste que je vous invite vraiment à être prudent. Comme Ben Sirac, le sage lui-même, l'a recommandé. Je vous invite à être prudent. Parce que malheureusement, l'amitié n'est pas nécessairement synonyme de loyauté. Et le meilleur moyen de vous préserver, de vous protéger, c'est vraiment de rester prudent vis-à-vis des personnes qui se disent être vos amis. Parce que comme on l'a dit, les gens, et ça on l'a dit dans la partie 1 du coup... Donc, si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, moi, je vous invite vraiment à le faire, même si, en soi, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes dans la partie 1. Du coup, je vous inviterai vraiment à aller écouter ça. Donc, les gens savent très bien se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Les gens savent très bien se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et c'est le fait de les fréquenter, d'être amis avec eux, qui va faire que, quel que soit le temps que ça va prendre, leur vraie nature va finir par se dévoiler. Que ce soit dans toute sa splendeur ou pas, ça va finir par se dévoiler. Et finalement, Se méfier, en fait, serait une bonne façon d'accepter cette réalité. Dans, on va dire, dans la même vibe de méfiance, même si ça ne parle pas forcément d'amitié, il y a du coup MJ dans un film Spider-Man qui dit « Le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est de s'attendre à rien ». Je vous assure que c'est tellement vrai. La phrase, elle parle d'elle-même. Elle parle tellement d'elle-même que j'ai regardé le film et j'ai retenu la phrase, en fait. Alors que je pense que ça doit bien faire 4 ans, 3-4 ans que j'ai regardé ce film. Du coup, vraiment, pour vous dire. Et je pense aussi que cette phrase, en fait, elle résume bien ce qui a été analysé avant, dans la partie 1, sur le fait que finalement, tu dois t'entendre avec beaucoup de gens. Tu dois être en bon terme avec beaucoup de gens, mais ça veut pas dire que tu dois être ami avec beaucoup de gens. Je sais pas si vous voyez. Il faut que vous soyez en bon terme avec tout le monde si possible, mais sans plus. Et du coup, c'est un avertissement aussi contre la naïveté, en suggérant que finalement, les personnes les plus proches de vous sont aussi celles qui ont le plus, de pouvoir, en fait, pour vous nuire. Voilà. Et ça, c'est suggéré dans plein d'œuvres littéraires, Dans la partie 1, j'ai cité le conte de Monte Cristo, mais pour ne pas me répéter, là, par exemple, je peux citer Othello. Je peux citer Othello de Shakespeare. Dans ce livre, on voit à quel point il y a, en fait, de l'ambiguïté. Ouais, on va dire ça comme ça. Il y a de l'ambiguïté, en fait, dans les relations humaines. Et l'amour et la haine, vraiment, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. L'amour et la haine peuvent être finalement étroitement liés. C'est-à-dire, la jalousie et l'envie ne sont jamais bien loin de l'admiration. Et les personnages littéraires qui incarnent, en fait, cette ambiguïté dans ce livre, c'est... Bon, on va dire c'est Lago, parce que là, c'est le premier... Mais je pense vraiment que c'est lui, en fait. C'est Lago qui utilise, en fait, sa position d'ami pour tromper et détruire. Ce qui va finalement souligner combien il est difficile de distinguer les véritables intentions des personnes qui vous font face. Parce que les gens savent très bien se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Genre, là, vraiment... Bon. Je pense que, de toute façon, je n'ai pas besoin de plus développer que ça, parce que c'est assez clair pour moi. Et... c'est pas forcément la partie la plus encourageante que j'ai citée ici. Enfin, c'est pas forcément la phrase la plus encourageante, en tout cas, que j'ai citée ici. Parce qu'elle est quand même un peu pessimiste. Mais honnêtement, le meilleur moyen de ne pas être déçu est de s'attendre à rien. Genre, ayez un certain détachement et un certain discernement vis-à-vis des choses. En fait, j'ai envie de vous dire, ayez un certain détachement pour commencer vis-à-vis des choses. Parce que le discernement, c'est quand même plus subtil, c'est quand même plus compliqué. Du coup... Voilà. Mais comme je l'ai beaucoup répété, il faut être prudent. Du coup, je pense que là, on va essayer d'un peu faire une petite aparté, en fait, pour analyser l'idée de la prudence. Il faut savoir que le Saint-Esprit a des fruits. Le Saint-Esprit, je pense qu'ici, on connaît tous le Saint-Esprit. Nous, on croit, oui, nous, les chrétiens, on croit que Dieu... est Père, Fils et Esprit Saint. Donc il est Trinité, c'est une sainte Trinité, mais chaque membre de cette Trinité a sa propre identité, si je peux dire ça comme ça. Peut-être qu'un jour je ferai une petite vidéo pour mieux expliquer la Sainte Trinité, parce que je sais que c'est quelque chose qui fatigue vraiment les gens qui ont du mal à comprendre cette idée que trois personnages différents puissent être la même personne. Mais quoi qu'il en soit, donc, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, selon Galates 5, donc des versets 22 à 23, possède des fruits. Le Saint-Esprit possède aussi des dons, mais on va rester sur les fruits. Et je pense que je ferai un autre jour, peut-être un épisode ou une vidéo sur le Saint-Esprit, voilà. Donc, les fruits du Saint-Esprit sont cités en Galates 5, les versets 22 à 23, et sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Du coup, je vais répéter. Donc, les fruits du Saint-Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit, en fait, c'est le résultat de quelque chose. C'est ce qui sort, en fait, de la graine. Donc, il faut que vous compreniez les fruits du Saint-Esprit comme étant, on va dire, le résultat de la présence du Saint-Esprit en vous et ou avec vous. Du coup, si vous êtes une personne qui cherche vraiment à côtoyer le Saint-Esprit, qui cherche à avoir un vrai lien avec le Saint-Esprit, ou qui a déjà, on va dire, les graines du Saint-Esprit qui sont semées en lui, lorsque ces graines-là vont germer, elles vont du coup produire de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et une maîtrise de soi. Et il faut savoir que, bien que finalement la prudence ne soit pas directement nommée, parce que moi, au début, quand j'avais commencé à faire ma petite analyse, je pensais que la prudence, c'était un fruit du Saint-Esprit, du coup je voulais plaquer ça comme ça en mode de... Ah, en plus, la prudence, c'est un fruit du Saint-Esprit, mais en fait, non. Donc, bien que la prudence ne soit pas directement nommée, elle est traditionnellement, en fait, considérée comme une vertu cardinale. Donc, c'est-à-dire, dans la théologie chrétienne, dans la façon de voir des chrétiens, la prudence va de pair avec la justice, le courage et la tempérance. La prudence, c'est la vertu, finalement, qui vous permet de discerner le bien du mal et de faire des choix éclairés en tenant compte des circonstances. Donc, la conséquence directe de la prudence, c'est le discernement. Et je pense que la prudence peut du coup être vue finalement comme une application pratique des fruits du Saint-Esprit, en particulier du coup la sagesse, parce que j'ai l'impression que dans la liste, je n'ai pas dit la sagesse alors que c'est dedans. Donc, en particulier la sagesse et la maîtrise de soi. La sagesse, en fait, elle est parfois considérée comme un don du Saint-Esprit. Et les dons, comme je l'ai dit un peu au début, c'est quand même assez distinct des fruits du Saint-Esprit. Mais dans tous les cas, ça va guider, en fait, votre esprit dans le choix du bien. Tandis que, on va dire, la maîtrise de soi va aider à réguler les actions en fonction de ce qui est juste et bon. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de prudence dans vos amitiés. Pour avoir un bon jugement sur vos amitiés, finalement, vous avez besoin de prudence. Et du coup, moi, je vais essayer de prier pour vous. Voilà, je vais essayer de prier pour vous, pour toutes les personnes qui ont mon âge, ou qui écoutent le podcast, ou qui cherchent à améliorer leur relation avec Dieu. Je pense que je vais vraiment prier, en fait, pour qu'on ait tous du discernement et pour qu'on fasse tous preuve de prudence dans nos amitiés. Parce que, comme je l'ai dit dans la partie 1, parfois, il vous suffit juste d'analyser, en fait, et de bien observer pour voir qu'il y a quand même des... On va dire, il y a quand même des red flags qui sont vraiment énormes. C'est-à-dire, le truc, il arrive gros devant toi comme une maison. Mais juste parce que t'es pas prudent, parce que t'es pas concentré, parce que tu fais pas attention, tu ne vas pas voir. Donc, on continue avec les versets. Verset 14 et verset 15. Je vais vous lire ces deux versets parce que je pense qu'ils sont intéressants à analyser ensemble et pas séparément. Sinon, ça va faire trop répétitif et puis voilà. Donc, le verset 14 dit « Un ami fidèle est une protection puissante. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. » Et le verset 15 qui suit du coup dit « J'ai dit qu'il fallait que j'arrête de dire que les versets disent, parce que les versets ne disent pas. Bref, donc, il est écrit « Un ami fidèle est une protection puissante, celui qui le trouve a trouvé un trésor. Et rien ne vaut un ami fidèle, aucun poids ne saurait en marquer le prix. » Donc là, je pense que déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est la précision de l'ami fidèle. Parce qu'il y a des amis... Il y a des amis et il y a des amis fidèles. Et il faut savoir que les amis fidèles, du coup, ce sont les personnes qui vous aident, ce sont les personnes qui vous protègent, et ce sont ces personnes-là qui sont un trésor pour vous. Des personnes avec une valeur inestimable, telle que on ne peut pas se permettre d'en fixer le prix. L'idée selon laquelle, en fait, aucun poids ne saurait en marquer le prix, c'est vraiment l'idée de quelque chose de tellement grand qu'il n'est pas quantifiable. Donc, l'ami, c'est quelqu'un qui vous protège, qui veut... En fait, c'est quelqu'un qui veut notre bien. Et il veut notre bien, pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et j'aurais peut-être dû commencer par ça dans la partie 1, mais le mot « ami » vient du latin « amicus », qui signifie « ami » ou « celui qui aime ». Donc, Voilà. Je l'ai découvert en préparant cet épisode, du coup, voilà. Donc, ami, en fait, ça signifie celui qui aime. Amicus, lui-même, est dérivé, en fait, du verbe latin amare, qui signifie aimer. Et comme l'amour est l'une des plus belles choses qui soient, on peut beaucoup parler de relations amoureuses, mais finalement, en fait, il y a certaines amitiés qui sont encore plus belles lorsqu'elles sont avec les bonnes personnes. Que ce soit des amitiés avec... si vous êtes une fille, que ce soit une amitié avec une fille, une amitié avec un garçon, peu importe. Il y a des amitiés qui sont beaucoup plus belles que des relations amoureuses, à mon avis. Et je pense qu'en fait, il y a certaines amitiés où on se sent plus aimé et plus nous-mêmes que dans une relation amoureuse. Je sais pas si l'idée, elle est assez explicite, mais c'est vraiment ça. Il y a des amitiés où vous vous sentez tellement bien, vous vous sentez tellement vous-même. Et il faut savoir que, comme l'amour excuse quand même beaucoup de choses, quelqu'un qui vous aime sincèrement vous acceptera tel que vous êtes et vous protégera vraiment. Et vous sentirez à quel point vous avez en fait de la chance de l'avoir. Et ça, c'est une grâce inestimable parce que, comme le verset l'a dit, un ami fidèle, c'est un trésor. C'est un trésor. C'est pas quelque chose qui est facile à trouver, mais une fois que vous l'avez trouvé, si vous savez l'entretenir et en prendre soin, vous allez vous rendre compte que c'est l'une des plus belles choses qui puissent vous arriver. Du coup, le verset 16 qui suit... Je cherche une autre formule, en fait, parce que je m'apprêtais à dire encore le qui dit. Mais bref, un ami fidèle est un remède de vie. Ceux qui craignent le Seigneur le trouvent. Un ami fidèle est un remède de vie. Ceux qui craignent le Seigneur le trouvent. Donc, un vrai ami, c'est celui qui a la capacité de soigner tes maux, M-A-U-X, par sa présence dans ta vie. C'est celui qui te guérit, en fait. Je trouve que c'est une image forte, mais c'est tellement vrai. C'est celui qui te guérit. C'est celui qui fait une différence dans ta vie. Comme je l'ai dit dans le petit réel que j'ai posté hier, du coup, c'est celui dont la présence fait la différence, en fait. Et je pense que ceux qui ont la foi, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui comprennent que c'est Dieu qui est au contrôle, vont finir par trouver cette personne qui va devenir un ami fidèle avec le temps. Et je vais donc profiter pour définir la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la conscience du sens de sa grandeur. Voilà, c'est la conscience du sens de sa grandeur. C'est vraiment en fait la transition entre la religion et la relation. Parce que malheureusement, et je pense que je ferai peut-être un jour toute une vidéo dessus, parce que ça mérite quand même d'être un sujet traité, malheureusement, il y a des gens qui restent en fait toute leur vie dans la religion, dans le suivi en fait de l'organisation de leur foi par une institution, et donc par des hommes, en l'occurrence l'Église et ses conciles par exemple, et n'arrivent pas au stade de la relation, au stade du lien, de la compréhension, de l'émerveillement avec Dieu. Et je pense que c'est quand tu entres dans la notion de relation que la crainte, enfin la notion de crainte de Dieu, la notion de crainte du Seigneur prend tout son sens en fait. Parce que tu prends conscience de l'infinie distance entre le Tout-Puissant et ses créatures. Et ce don, ça suscite une attitude d'humilité parce que ça te fait voir à quel point tu es petit, mais aussi ça te pousse en fait à l'émerveillement. À l'émerveillement surtout quand tu regardes les petites choses, quand tu regardes comment est-ce que la nature est faite, comment est-ce que le corps humain est fait, comment est-ce que finalement toutes les personnes qui sont sur la Terre sont genre les personnages principaux de leur propre vie. Enfin, des petits trucs comme ça auxquels on peut ne même pas faire attention, mais qui sont tout bonnement incroyables. Et finalement, c'est la crainte de Dieu qui est en nous, qui va nous pousser à le respecter, à faire sa volonté, et du coup à bien traiter les autres, parce qu'on les considère justement comme des créatures de Dieu. Donc à plus forte raison des personnes qui sont nos amis, à plus forte raison des personnes qui nous aiment, à plus forte raison des personnes qui sont là pour nous, qui nous protègent, qui, qui voilà quoi, qui sont des amis fidèles et qui sont nos remèdes de vie. Et du coup, le verset 17, qui est le dernier verset, on a dans le verset 17, « Celui qui craint le Seigneur a une véritable amitié, car son ami lui est semblable. » Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Déposez cette histoire des opposés qui s'attirent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc ici, ce qui est mis en évidence, c'est que si tu crains le Seigneur, si tu es fidèle, si tu es une personne de confiance, si tu es une personne plein d'amour, qui donne sans compter, une personne qui soutient, une personne qui respecte, et j'en passe, tu trouveras sur ta route une personne qui va incarner aussi ces différents points pour toi. Et j'ai une connaissance qui m'a un jour dit que un ami, c'est celui avec qui vous partagez la même âme. C'est-à-dire la même vision des choses, certains traits de caractère. Et je trouve que c'est chou en fait de voir les choses comme ça, de comprendre en fait que vous partagez la même âme que vos amis. Parce que finalement, vous êtes ce que vous fréquentez. Et si ce n'est pas encore le cas, sachez que vous allez finir par le devenir. Parce que le fait de traîner, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc vous êtes vraiment ce que vous fréquentez. Et même si vous êtes en griffe, la personne différente du groupe, si vous êtes dans ce groupe, c'est que quelque part au fond de vous, il y a une partie de vous qui est comme ces personnes-là. Je sais pas si ce que j'ai dit c'est clair, mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'êtes pas encore ce que vous fréquentez, vous allez finir par le devenir. Ça, c'est... Voilà. Je pense que j'ai pas plus besoin de développer que ça. Et pour savoir en fait à qui tu ressembles au point de t'assembler avec cette personne, il faut avoir conscience de ta valeur, il faut savoir qui tu es. Et je pense que c'est vraiment ce dont on a parlé dans l'épisode 1, et c'est vraiment important de le rappeler. Il faut que vous sachiez qui vous êtes. Il faut que vous cherchiez, en fait, qui vous êtes. Et j'ai pas envie, en fait, de m'éparpiller sur trop de choses en même temps parce que je n'ai pas envie de trop m'éloigner du sujet principal. Donc, je pense qu'un jour, on va faire un épisode ou une petite story, en tout cas un truc qui va répondre à la question « Qui suis-je ?» Parce que souvent, on ne sait pas qui on est. Et c'est parce qu'on ne sait pas qui on est que... on n'a pas conscience de notre valeur et finalement ça devient souvent l'erreur de parcours des gens, se rabaisser. Et du coup, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 1 qui porte sur l'amour de soi, je vous invite vivement à le faire. Parce que moi, pour moi, si quelqu'un vient te dire « je vais t'aimer à 50%, même si toi tu m'aimes à 100%, et toi je décide de l'accepter comme ça », c'est que tu te rabaisses en fait. Tu te rabaisses. Et si tu te rabaisses, c'est que tu n'as pas conscience de ta propre valeur. Sinon, tu ne peux pas savoir que par exemple, toi, tu es prêt à donner 100% de ta personne pour une amitié et que la personne ne va que te rendre la moitié et accepter la chose comme ça et te mettre en fait à 100% sur la personne. Il faut que vous donnez... C'est ça, il faut que vous rendez en fait l'énergie que vous recevez. Et ne vous rabaissez pour personne. Ne vous rabaissez pour personne. Si quelqu'un ne vous correspond pas, faites-en un bon camarade, mais pas forcément un bon ami. Parce que je pense vraiment que ça ralentit, en fait, d'avoir des personnes qui ne sont pas sur la même fréquence, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Et pour les Grecs, ce qui distingue l'amitié des autres types de relations, c'est la notion de choix. Moi, je suis vraiment une personne pour qui on a toujours le choix. Toujours. Il y a des personnes à qui j'ai répété ça, et je pense que ça les a saoulées. Parce que c'est vraiment un truc dont je suis profondément convaincue. On a toujours le choix. Et en fait, vous choisissez vos amis et ceux avec qui vous traînez. C'est pour ça que souvent on définit les amis comme la famille qu'on choisit. Parce que c'est vous qui les choisissez. Et autant, par exemple, les Grecs, ils vont vous dire que les passions, l'amour... le fait de tomber amoureux, amoureuse du coup, ce n'est pas des choses que vous pouvez contrôler du fait que ça vous prend au dépourvu, même si ça c'est quelque chose de discutable, mais bref, vos amis, vous avez un réel pouvoir de décision par rapport au devenir du lien que vous créez avec eux. Donc, je voudrais vraiment vous dire que si vous êtes dans un environnement qui ne vous arrange pas, si vous êtes avec des amis qui ne vous arrangent pas, bougez. N'ayez pas peur. Parce que la peur, déjà, c'est pas un sentiment qui vient de Dieu. C'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Et ça, je pense... Oui, c'est clairement l'idée du titre de l'épisode 0. Et si actuellement vous vous sentez seul, vous vous sentez sans réels amis, sachez que vous finirez par avoir des amis. Comme David, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, vous allez connaître des pertes, des trahisons, vous allez connaître le mépris, mais parce que vous craignez le Seigneur, vous allez finir par avoir de vrais amis. Et ainsi, nous avons fini notre analyse de ce beau texte de Siracide avec une conclusion qui parle d'elle-même. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait du bien. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a fait du bien. Et vis-à-vis du dernier verset, on va profiter pour faire un petit focus sur l'environnement nocif avant de finir. Parce que je veux pas faire cet épisode en trois parties, je veux vraiment le faire en deux parties. Donc je suis désolée si c'est déjà un peu long. Donc on va faire un petit focus sur l'environnement nocif, sachant qu'on a déjà parlé du fait que le premier environnement nocif est celui qui se crée dans notre tête. C'est celui que l'on crée avec nos pensées, avec ce que l'on consomme, donc les films, les musiques, et ce que l'on dit nous-mêmes sur nous, donc les paroles. Parce que pour rappel, les pensées de paix apportent la paix, et la qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées. Donc, en tant que chrétien, pas pour notre propre en fait élévation spirituelle et notre relation avec Dieu, je pense que il faut grandir dans un environnement qui prône les valeurs de la Bible. Et cela va donc passer par notre cercle d'amis, les relations amoureuses, ce que l'on voit, ce que l'on entend, etc. Et dans le cas des relations, pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on est assez mature pour savoir lorsque l'on observe les amis, quels sont les amis qui nous élèvent et quels sont les amis qui nous rabaissent. Et quand je dis rabaisse, c'est rabaisser dans le sens de vous rabaisser spirituellement. Vous vous éloignez de votre foi, de votre religion, de vos convictions. Et comme on l'a vu, on a une liberté en fait de choix sur nos amis, mais aussi sur notre entourage. Donc maintenant, on a les outils, on est bien outillés pour gérer nos relations, on est bien outillés pour bien choisir nos amis, notre cercle et ceux avec qui on traîne. Donc l'exemple bête numéro 1, c'est du coup sur les amis qui fument, les amis qui prônent l'impudicité. Parce que sache qu'à partir du moment où tu es dans un environnement nocif, on retombe vraiment sur l'idée de tu vas finir par devenir... tu deviens ce que tu fréquentes, si ce n'est pas déjà le cas. Et tu finis par nourrir ton propre esprit de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et comme la chair est faible, tu pourras plus facilement céder au péché en fait. C'est pour ça que la Bible ne nous dit pas de combattre l'impudicité, mais de fuir l'impudicité. De fuir, en fait, les tentations. Parce qu'il y a des moments dans la vie où mieux vaut fuir que de chercher à combattre. Mieux vaut prendre la fuite. Et ça, je pense que vous allez entendre ça pour les 3 semaines à venir. Parce que mieux vaut prendre la fuite que de chercher à se battre, à combattre, ou penser que non, on est trop capable de résister, en fait. Non ! Pas dit chou, vous n'êtes pas capable de résister. Paul lui-même, il s'est levé pour écrire dans son livre, dans ses nombreuses lettres, qu'il faut fuir l'impudicité, qu'il faut fuir la tentation. Non, ne pensez pas que vous êtes capable de combattre ça. Il y a des personnes qui, par la grâce de Dieu, réussissent à combattre ça. Mais on va dire, c'est pas le commun des mortels. Donc, n'allez pas vous essayer dessus. Du coup, voilà. Notre environnement, en fait, doit nous ressembler. Il faut vraiment que vous gardiez ça à l'esprit. Notre environnement doit nous ressembler. Et je pense que parfois, en fait, quand tu vois que ton entourage ou des personnes que tu côtoies font, on va dire, entre guillemets, des mauvaises choses, tu réalises, en fait, finalement, que la ligne est très, très, très fine entre le conseil et le jugement. La ligne, elle est très fine. C'est pas facile de conseiller, en fait, sans être dans le jugement. Et aussi, je pense que pour ça, la rêve biblique qu'on peut avoir, c'est Luc chapitre 6, verset 22, qui dit « Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent et vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous parce que vous croyez au Fils de l'homme. Et ce qui est la folie des hommes est sagesse pour Dieu. » Donc, si on prend dans un autre sens, ce qui est sagesse pour l'homme est folie pour Dieu. Donc ça c'est 1 Corinthiens, c'est l'idée de 1 Corinthiens, les chapitres 1 et 2. Et c'est le paradoxe du coup entre la sagesse de Dieu et celle des hommes. Et la sagesse de Dieu peut paraître folie pour l'homme, et le monde vous verra comme des fous, mais c'est pas grave. Essayez de prendre vos décisions en fonction, en vous alignant, en fait, ouais, en restant aligné sur ce que vous croyez, sur vos convictions. Et du coup, voilà, je pense que je vais essayer d'abréger. Je pense que je vais essayer de terminer cet épisode en vous rappelant que finalement, l'air de rien, ceux que vous considérez comme étant vos amis doivent répondre à certains critères. Ils doivent répondre à certains critères qui sont parfois évidents, en mode tu vas pas être ami avec une personne qui est méchante, mais en même temps, il y a des critères qui sont beaucoup plus subtils et qui finissent par s'évaluer avec le temps. Et j'aimerais terminer cet épisode en rappelant que vous êtes votre premier ami. Vous êtes votre premier meilleur ami. Vous êtes vraiment scotché à vous-même pour un bon bout de temps. Donc si vous cherchez le nom de votre meilleur ami, sachez que c'est votre deuxième prénom. Parce que c'est vraiment ça en fait. Vous êtes votre propre ami et il faut que vous en ayez conscience. Malheureusement, malgré tout, il y aura toujours des moments où votre entourage n'arrivera pas à vous faire sentir moins seul et où vous devrez vraiment traverser certains combats seuls pour en ressortir, on va dire, grandi. Et si vous n'êtes pas habitué à vous reposer sur vous et sur vos convictions, donc votre foi sur Dieu, ce sera certainement plus dur à vivre. En tout cas, voilà. Ainsi prend fin notre épisode sur l'amitié, directement dans la continuité de l'amour de soi incluant l'amour de l'autre et l'amour de Dieu. J'ai trouvé ça super pertinent d'aborder ce sujet hyper important qu'est l'amitié et les relations humaines en me basant entièrement sur un texte de la Bible. C'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je fais une argumentation en fait en me basant que sur un texte de la Bible. Du coup c'est une expérience nouvelle pour moi et je suis contente que Dieu m'ait mis cette idée-là à l'esprit et ce texte-là à l'esprit. Parce que j'espère qu'en tout cas, ça va vous toucher comme moi, ça m'a touchée. Parce que c'est définitivement mon traité sur l'amitié maintenant. C'est vraiment, je sais pas si je veux dire ma charte de l'amitié, mais c'est vraiment ça. Et je pense que si la Bible comporte un texte entier sur les faux et les vrais amis, c'est parce qu'il est important de le comprendre et de le méditer. Parce que finalement, choisir ses amis, ce n'est ni évident, ni facile. Donc, bisous et que Dieu vous bénisse. I was searching, then I found you and I was so certain.